beaucoup. Bon, effectivement, après avoir passé à peu près 25 ans en compagnie de nazis, j'ai voulu prendre un peu d'air frais, de changer de l'air. Je vais faire un petit voyage dans un pays un peu méconnu, la République démocratique allemande. Donc, voyage dans une terra incognita. Même si, juste avant la chute du mur, au printemps 1989, juste après les élections communales dont les résultats avaient été falsifiés, j'avais eu l'occasion et le plaisir de découvrir l'accablante et grise beauté de l'habitat de la Hauptstadt der DDR, Ost-Berlin, de voir rouler d'étranges petites voitures au moteur Teuton, et de fréquenter d'un peu trop près d'ailleurs les zélés Volkspolizisten, éructant d'incompréhensibles aboiements. Douceur de l'exotisme. Celui qui connaît quand même un peu les discours juridiques nazis et qui se plonge dans ceux de la défunte Allemagne de l'Est ressent une certaine impression de déjà-vu, mais aussi de la différence, et pas qu'un peu, de sorte que d'un totalitarisme l'autre, cela ne signifie pas du pareil au même. Et on a vu aujourd'hui beaucoup de différences. Cette différence entre le discours juridique nazi et le discours juridique d'un système totalitaire socialiste s'explique sans doute, en tout cas c'est une hypothèse que je ferai, par le fait qu'à la différence des idéologues nationaux-socialistes, les juristes communistes avaient disposé d'un véritable appareil philosophico-théorique complètement structuré qu'il convenait d'interpréter sans le transformer, à savoir l'œuvre de Marx, Engels, complétée par les écrits de Lénine et du dernier théoricien en vogue au début de l'Allemagne orientale, le camarade Staline. Lénine-Staline étaient en quelque sorte les interprètes authentiques de la pensée de Marx et d'Engels, de sorte que le carcan idéologico-théorique était beaucoup plus puissamment structuré en Allemagne de l'Est que chez les nazis, puisque eux, les pauvres, si je puis dire, pour toute source primaire authentique, n'avait que le texte indigeste et indigent de Mein Kampf. Et cela fait, je crois, des différences dans les conditions même de construction des discours juridiques. Je me concentrerai d'abord, je vais faire en deux temps, je vais essayer d'être rapide, parce que ça n'est que le résumé d'un gros texte. Voilà. Sur la première décennie de la RDA, de 49 à 59, c'est-à-dire la première moitié de l'ère Ulbricht, ce moment est important parce qu'il s'agit de mettre en place les structures de contrôle de la production, du droit, de l'enseignement du droit, de la science du droit, de fixer la doctrine et de mettre au pas les professions juridiques ainsi que l'enseignement de la science du droit. Et tout se joue sur le fond d'événements politiques majeurs, d'instabilité de ce régime et des régimes disons, communistes d'Europe de l'Est. Le soulèvement du 17 juin 1953 en RDA, et puis alors évidemment le rapport de Khrouchtchev au 20e congrès, le rapport secret. Cela, ces événements ne sont pas sans conséquences directes sur le monde juridique et ils expliquent alors l'événement traumatique auquel je vais consacrer l'essentiel de mon premier propos, à savoir la conférence dite de Babelsberg qui se tient les 2 et 3 avril 1958. Et le second moment de mon exposé sera consacré plus précisément à quelques questions de droit constitutionnel. Première partie, à Babelsberg. Mont Babel. On parle une seule langue et d'une seule voix. On dit le droit selon M. Ulbricht. Babelsberg, c'était le cœur névralgique de la science estamment du droit. C'était aussi la tour de contrôle idéologique de l'enseignement et de l'édition et des professions juridiques. C'était le siège de l'Académie allemande pour la science politique et juridique Walter Ulbricht, le nom propre étant le nom de l'Institut de l'Académie. Oui, Académie pour la science politique et juridique, et il faut conserver le singulier de l'allemand, la science politique et juridique, parce que cette nouvelle science juridique, solidement établie sur les fondements du marxisme-léninisme, n'admettait aucune différence ni séparation entre science politique et science juridique, comme sous le Troisième Reich. La science juridique était tenue pour une science de part en part politique. Et dans le livre qu'il consacre à l'essence du droit d'après le marxisme-léninisme, sur lequel je reviendrai, Hermann Kleiner écrivait clairement « Le droit est une catégorie subordonnée à celle de la politique. Walter Ulbricht, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est l'homme clé des 20 premières années de la RDA, c'est le potentat. Comme il est revenu de Moscou, envoyé par Moscou et à Berlin au centre pour reconstituer le KPD, il avait dès le départ une position clé, il avait les réseaux qu'il fallait. Et donc, même s'il n'est pas tout de suite le secrétaire général, le premier secrétaire du KPD, s'il a seulement des fonctions suppléantes, en vérité, c'est lui déjà l'homme clé derrière les figures que sont Wilhelm Pieck et Otto Grotewohl. Bon, je ne reviens pas, je ne vais pas faire l'histoire de la DDR. Bon, et il va rester au pouvoir, alors, de 1946, et à partir de 1950, il est le premier secrétaire du SED, c'est-à-dire le regroupement forcé entre le Parti communiste et le Parti social-démocrate. C'est lui qui organise ce regroupement forcé, d'ailleurs, et jusqu'à ce qu'il soit évincé par un homme dont on connaît peut-être davantage encore le nom, à savoir Erich Honecker. Avec le feu vert, évidemment, on ne peut pas le faire sans le feu vert du grand Léonid Brejnev à l'époque. Bon, l'ère Ulbricht fut indépassablement stalinienne. Il faut le dire, et je vais me borner à dire ça. Quelques mots sur l'Académie allemande pour la science politique et juridique Walter Ulbricht. Elle est créée en 1953 et fusionne, en réalité, c'est une sorte de fusion-absorption de l'Académie allemande pour l'administration et de l'École supérieure allemande pour la justice. En 1952 avait été aussi créé un institut allemand pour la science juridique, rattaché directement au ministère de la Justice, et qui sera officiellement rattaché à l'Académie en 1959. L'Académie était placée sous la tutelle directe du service des affaires politiques et juridiques du comité central du SED, et le siège de l'Académie était à Babelsberg, c'était l'univers juridique, le cœur névralgique de la science juridique estonienne. Oui, justement, Académie, ouais, ça rappelait un peu, toutes choses égales d'ailleurs, l'Académie für Deutsches Recht, créée en 1933 et placée sous la direction du Reichsführer Hans Spahn, dont on a parlé, je crois, déjà ce matin. Cette Académie, elle est définitivement constituée en 1953, c'est-à-dire juste après la phase par laquelle Ulbricht annonce une nouvelle phase dans le parcours de la RDA, à savoir la phase d'édification du socialisme, Aufbau des Sozialismus, annoncée en juillet 1952. Ça signifiait l'application aussi fidèle et aussi vite que possible du modèle soviétique stalinien en RDA, et Staline avait lui aussi accepté ce passage, cette nouvelle phase. Mais vous voyez, on est déjà en 1953, donc Staline meurt le 2 mars, c'est ça, 1953. Or, après la mort de Staline, bon, il y a un très court, très bref intermède sous la direction de Beria, pour faire simple, et Beria veut lâcher Ulbricht. C'est-à-dire que là, pour la première fois, Ulbricht va jouer sa peau. Et au fond, et avec les événements du 17 juin, le soulèvement quand même ouvrier dans toute l'Allemagne de l'Est, très important, il va en réchapper juste parce que Beria lui-même, fin juin, se fait évincer, et c'est le début de la montée en puissance de Khrouchtchev. Donc c'est Khrouchtchev, le déstalinisateur futur, qui va sauver Ulbricht, le stalinien de toujours. Les juristes étaient invités à participer pleinement à cette édification du socialisme. Je voudrais évoquer un premier problème, disons, de théorie générale du droit marxiste-léniniste. Je l'ai intitulé « Recherche de la base et du sommet ». Pardon, René Char. Mais bon, c'est bien ça, c'est recherche du rapport entre la base et la superstructure. C'est le thème récurrent. Les juristes est-allemands avaient la définition du droit qui avait été formulée par Wyszynski de manière officielle en 1938. Le droit, c'est l'ensemble des règles de conduite qui expriment la volonté de la classe dominante et sont fixées par voie législative, ainsi que les usages et règles de la vie communautaire sanctionnées par la puissance de l'État. L'application de ces règles est garantie par la puissance de contrainte de l'État en vue de sauvegarder, consolider et développer les rapports et les situations sociaux qui conviennent à la classe dominante et lui sont avantageuses. Fin de définition. Oh, positivisme rudimentaire. Ça se distingue fort peu du positivisme ordinaire de l'État bourgeois. Et d'ailleurs, ça pouvait s'appliquer, selon Wyszynski, aussi au droit capitaliste. Oh. Le problème fondamental auquel vont se confronter les juristes allemands, c'est... Mais Wyszynski ne fait pas mention du dogme de la base et de la superstructure. Il manque ce que a dit Marx dans l'introduction à la contribution de la critique de l'économie politique. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais à l'inverse, leur être social qui détermine leur conscience. Ça, c'est ma retraduction personnelle. C'est-à-dire, l'ensemble des rapports de production forme la structure économique de la société, la base réelle sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique, laquelle correspond à des formes déterminées de conscience sociale. Mais le mode de production de la vie matérielle conditionne pleinement le processus de la vie politique, sociale, c'est-à-dire la base conditionne pleinement la superstructure. Alors je ne reviens pas sur des histoires que les marxistes français connaissent très bien, à savoir que cela n'est vrai qu'en dernière instance, c'est ce que nous dit Engels dans la célèbre lettre à Joseph Bloch de 1890. Et il faut donc complexifier, sophistiquer cette question du rapport entre la base et la superstructure, car la superstructure ne peut pas être considérée seulement comme le reflet de la base, puisque tous les gouvernements, disons, socialistes sont interventionnistes. Donc, si le rapport entre la base et la superstructure ne peut pas être purement et simplement mécanique, la superstructure n'explique pas mécaniquement la base. Alors, il y avait déjà le texte de Bloch, mais il y a un écrit d'un très grand théoricien du marxisme-léninisme qui a eu peut-être une certaine influence sur un philosophe français quelques années plus tard, hein, qui, dans un texte intitulé « Le marxisme et le problème de la linguistique » paru dans la Pravda en 1950, a bien expliqué ce qu'il en était. Je veux parler de Joseph Staline, bien sûr. La structure, je cite, est engendrée par la base, mais cela ne veut pas dire qu'elle se borne à refléter la base, qu'elle soit passive, neutre, qu'elle se montre indifférente au sort de la base, au sort des classes. Au contraire, une fois existante, la superstructure devient une immense force active. Elle aide activement sa base à se cristalliser et à s'affermir. Elle met tout en œuvre pour aider le nouveau régime à achever la destruction de la vieille base et des vieilles classes et à les liquider. Mais cette question de la base et de la superstructure, c'est précisément ce qui manque dans la définition de Wyszynski. Et tout, là je vais résumer très très vite, on voit beaucoup de littérature dans ces années 50 qui prennent ça à bras le corps. Alors j'ai évoqué Harald Kleiner, il est considéré comme le principal théoricien Marx de la RDA. Et il écrit donc en 1955 un ouvrage sur l'essence du droit d'après le marxisme-léninisme. Et pour le simplifier considérablement, parce que le temps passe aussi pour moi malheureusement, il cite au départ la formule de Wyszynski, c'est une manière positiviste de définir le droit. Et puis, en vérité, il en fait la critique en reprenant toute cette question de la base, la superstructure, il y a un rapport dialectique entre la base et la superstructure, c'est pas un rapport mécanique, comme on l'a dit, comme nous l'a dit le grand Joseph Staline dans son article sur les problèmes de la linguistique, qui est régulièrement cité par la littérature juridique de RDA à cette époque. Bon, ça, après 56, on va moins le citer. On va rien changer, mais on évitera le nom du camarade Joseph. Bon. Donc tout ça, c'est une critique en disant il manque le moment substantiel marxiste-léniniste de la définition du droit dans cette théorie ou cette définition formelle de Wyszynski. Et comme on ne peut pas toucher encore, même en 55, pas encore à Wyszynski, on le fera après, on l'abandonnera après, à la fin de l'ouvrage, il revient à la définition de Wyszynski. En vérité, il a démoli tout au cours de l'ouvrage. Bon, il faut les lire un peu c'est un peu difficile. Donc, tout cela, je mettrai dans le texte écrit des développements beaucoup plus longs sur ces questions. Ça sera repris l'année suivante, parce que à Babelsberg, au sein de l'Académie, le 2 mars 1956, débute une conférence générale. Il y a 600 personnes. Il n'y a pas que des juristes, il y a aussi des membres du comité central. Il y a l'excellente Hilde Benjamin, dit Rote Hilde, ministre de la Justice, la belle-sœur de Walter Benjamin. Bon. Donc c'est organisé par le SED. Et en 1956, toute cette question est reprise. Et c'est le 2 mars 1956, c'est-à-dire on est une semaine jour pour jour après la divulgation du rapport secret. On en a des échos, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Mais enfin, c'est les débuts de la déstalinisation. Et là s'ouvre, donc à Babelsberg en 1956, on reprend toute cette histoire là-bas, c'est du sommet. On a déjà arrêté de citer Staline et on ne change rien au dispositif intellectuel théorique que j'ai déjà évoqué de 1955. Et commence une période, alors un peu difficile pour Ulbricht à nouveau, avec la déstalinisation, parce qu'il apparaît évidemment qu'il a été toujours le plus stalinien des dirigeants est-allemands, et il est obligé d'adopter, de mettre en berne son édification du socialisme, pour adopter un nouveau cours, Je ne peux pas entrer dans les détails, mais enfin, c'est diminuer un peu la pression, notamment la pression économique sur le peuple des travailleurs et des paysans, comme on l'appelait à l'époque. Tout ça sous l'impulsion de l'URSS. Mais il va être encore une fois sauvé. Sauvé par des insurrections, par des répressions particulièrement brutales. On est en 1956, c'est évidemment l'automne polonais et puis surtout hongrois. Et donc, après les événements de Pologne et de Hongrie, Khrouchtchev, le déstabilisateur, n'a pas du tout envie de jouer avec le feu dans les États satellites. Il n'est pas question, alors qu'on y était presque encore une fois, de pousser à la destitution d'Ulbricht. Au fond, le stalinien fait le boulot de la stabilité et de la continuité, et on ne va pas jouer encore comme on a joué. Et c'est dans ce contexte-là, à partir de là, Ulbricht se sent conforté et toute l'année 57 est destinée à éliminer ses opposants internes au parti, notamment le numéro 2, Schirdewan. Et il va y réussir. Et c'est dans ce contexte-là que va se tenir l'événement traumatique de Babelsberg 58, cette fois. On est les 2 et 3 avril. En 56, on avait rappelé alors à Babelsberg les juristes qu'il commence à travailler sur les vraies questions. En 58, on va attaquer Adenauer, on va désigner les révisionnistes, c'est la grande chasse aux révisionnistes. Alors, il y a ça déjà été chez les philosophes, c'est notamment le plus connu Ernst Bloch, qui sera l'une des victimes dès 57, et cette fois, c'est le tour des juristes, et la conférence de Babelsberg, c'est fait pour ça. Depuis le début de l'année 57, donc, Ulbricht avait marginalisé son opposition interne. Ulbricht va venir en personne à la conférence de Babelsberg d'avril 58. Et en avril 58, ne te découvre pas d'un fil, parce que le vent du boulet de la restalinisation risquait de se produire. Il est venu à Babelsberg pour expliquer en personne aux juristes et aux professeurs de droit ce qu'il en était du droit, c'est-à-dire de la vérité marxiste-léniniste du droit. Bon, il n'est pas nécessaire de s'apesantir sur le concept de droit de Walter Ulbricht. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a écrit le discours. Mais il est venu le dire en personne, que c'était un signe suffisant pour ceux à qui cela s'adressait. Oui, alors Robert Alexis, on a évoqué son nom, je crois, tout à l'heure, donc philosophe du droit contemporain, ouest-allemand, a analysé ce discours et a analysé le concept de droit. son résultat n'étonne guère. Il dit, Woolbridge développe à la fois un concept positiviste et non positiviste du droit. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a cette base, cette structure, cette superstructure de la définition chez Wyszynski qui suppose un volontarisme, qui est bien dans la conception d'un parti révolutionnaire. Mais en même temps, il faut un moment substantiel qui s'insère là-dedans. Autour de ces questions de la base matérielle des rapports économiques réels. Donc, le volontarisme positiviste d'un Wyszynski devait être lesté par une charge juridique substantielle d'un moment matériel qui donne le sens véritable à tout droit révolutionnaire, marxiste, léniniste. La superstructure juridique ne doit pas tourner dans le vide du formalisme positiviste que l'on dénonce, que Woolbridge dénonce, le formalisme du droit formel bourgeois, mais s'accrocher en dernière instance, comme l'on dit à ce moment-là, à la base matérielle des rapports économiques socialistes. Donc, ce qui frappe pour celui qui s'est intéressé au discours nazi du droit, c'est de retrouver, enfin, je crois, c'est une analogie de comparaison n'est pas raison, mais tout de même, un motif discursif comparable, une structure comparable de ces discours, et que un sociologue du droit, Herbert Trautleutner, parlant des discours nazis, a appelé un décisionnisme substantiel. Et moi, je trouve que c'est une phrase, c'est une formule qui m'avait aidé aussi pour comprendre ce qui se passait, notamment dans la pensée de l'ordre concret de Carl Schmitt, où vous avez deux moments qu'on n'arrive pas à mettre ensemble et qui doivent tenir ensemble pour avoir la portée idéologique nécessaire à la théorie, c'est-à-dire le moment de l'ordre concret, du donné concret, alors c'est la communauté populaire allemande, et puis le moment de ce que Carl Schmitt appelle la Gestaltung, c'est-à-dire la force créatrice, la création, le construit, pour l'opposition, et qui est dans le pouvoir du Führer. Et on retrouve exactement cette structure duale d'un décisionnisme substantiel ici, entre le volontarisme et la prise en compte nécessaire de la base réelle du droit et de la superstructure. Alors, certains juristes présents ont fait les frais, et Hermann Kleiner lui-même était dans les viseurs d'Ulbricht. J'en viens maintenant. Je crois que je vais rester bon.
Non, beaucoup de
temps. Et on pourra discuter. J'en viens maintenant à quelques éléments sur le droit constitutionnel de la RDA. Et je vais me borner ici à trois questions. Les droits fondamentaux, parce qu'il y a un discours des droits fondamentaux. Une question qui, évidemment, est toujours facile aux juristes bourgeois, à savoir l'élection. Qu'est-ce que c'est qu'une élection en RDA ? Et comment on l'explique. Et puis enfin, je voudrais parler de la justice. Et là, je retrouve une idée quand même que j'ai essayé de... Enfin, qui a gouverné, qui a donné le titre de la seconde partie du livre sur le nazisme, etc. Ce que nous considérons, nous ne pouvons considérer que comme des inversions de sens. Voilà. Des inversions de sens. C'est-à-dire que les logiques discursives qui sont à l'œuvre affectent le sens pour nous ordinaire que nous attachons à ces mots de droits fondamentaux, élection, justice. Bon, dans la version écrite, je prendrai d'autres exemples. Mais ça les affecte jusqu'à les retourner en ce qui nous apparaît être leur contraire. Donc, les droits fondamentaux d'abord. À la différence du discours juridique nazi, et malgré la critique marxiste traditionnelle, depuis la question juive, faite aux droits de l'homme, les droits purement formels destinés à garantir la propriété et les libertés capitalistes, le droit de RDA n'a pas exclu l'expression allemande traditionnelle depuis 1848, le droit fondamental. Ça n'apparaît pas en tant que tel dans la première constitution de 1949 qui consacre un titre au simple droit des citoyens, Recht. Mais elle revient dans la deuxième constitution, celle de 1968, et sera maintenue dans la constitution de 68, révisée en 1974, qu'on peut appeler la constitution révisée par Honecker. Le mot Grundrechte, alors là, se trouve présent, mais flanqué de ce qui est conçu comme son nécessaire pendant, à savoir les Grundpflichten, les devoirs fondamentaux. D'après tout, Weimar, Grundrechte und Grundpflichten, il n'y avait pas, il n'y a pas de quoi choquer excessivement un lecteur, même si on se souvient des débats sous la Révolution française, les droits et les devoirs. Bon, hein, mais, ok. Toutefois, les mots ne sont pas les choses, les signes sont arbitraires, on le sait tous, et l'inversion de sens se produit ainsi, comme le note tout à fait, de manière parfaite, Ernst Wolfgang Böckenförde, qui a écrit un petit livre sur Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat, la conception du droit dans l'État communiste, se permet de rendre hommage à celui dont j'ai jamais été élève, mais qui est mon maître, Böckenförde. Et voilà ce qu'il écrit. Ça n'est plus le contenu, et je crois qu'il le dit très bien, mais ça, il dit toujours plus très bien. Ce n'est plus le contenu normatif des droits fondamentaux qui détermine la relation fondamentale du citoyen à l'État, comme cela correspond à la conception occidentale gouvernée par l'idée d'État de droit, mais tout à l'inverse, c'est la relation fondamentale socialiste du citoyen à l'État qui détermine le contenu normatif des droits fondamentaux. L'inversion est parfaite. Et elle exprime la logique même du système nouveau. La relation fondamentale du citoyen à l'État n'est précisément plus celle d'une séparation de principe entre sphère privée et sphère publique, entre État et société. La garantie d'une autonomie de la société au sein de laquelle s'expriment et jouent des intérêts divergents, mais cette relation fondamentale présuppose l'harmonie et l'unité objectif des intérêts, intérêts privés, intérêts collectifs, unité que doit garantir l'État, mais doit garantir l'État grâce aux partis et aux organisations sociales de ce parti. Donc la conception formelle bourgeoise des droits fondamentaux, qui est justifiée par ces divers principes de séparation, comme le disait Maurice Auriout, l'État moderne est fondé sur des séparations fondamentales. Bon, mais c'est l'État libéral, bourgeois, ces séparations, l'État, la société, voilà, la sphère privée, la sphère publique, et qui sont donc la base même de la société capitaliste et de l'exploitation économique d'un point de vue marxiste-léniniste, cette conception est donc dépassée grâce à une conception fonctionnelle concrète de ces droits, même formulée sous l'apparence traditionnelle, sous la même apparence que les droits classiques, des droits défensifs, comme on dit, Abwehrrecht, hein, à tout le moins dans le texte de 49. Le texte de 49 sur les droits fondamentaux ressemble pratiquement mot à mot à Weimar. Bon. Mais non, si c'est la relation, comme le dit Böckenförde, fondamentale du citoyen à l'État qui détermine le contenu normatif même des droits fondamentaux, alors il faut les entendre fondamentalement comme des droits de participation et pas comme des droits défensifs. Et c'est l'expression consacrée dans cette littérature, c'est Mitwirkungsrechte, des droits de participation du citoyen. Car en participant à la définition, pourquoi il fait tomber ? En participant à la définition collective des conditions de vie et de travail, notamment au sein des organisations sociales, c'est très important, les organisations de masse, les organisations sociales, c'est pas du corporatisme, mais ça vient travailler en profondeur la société jusqu'au plus profond. Le travailleur, l'ouvrier et le paysan, hein, parce que c'est l'état des ouvriers et des paysans, bon, réalise son droit. Le travailleur réalise son droit en participant à la détermination collective des conditions de vie et de travail. Dès lors que, ce faisant, il ne vient pas avec son intérêt particulier, mais prend conscience socialiste, de la convergence réelle et objective de son intérêt avec l'intérêt collectif. Il réalise son droit en tant qu'il objective sa subjectivité dans l'intérêt commun. Voilà. Le facteur subjectif, comme on appelait la superstructure aussi, s'harmonise avec le facteur objectif, la base, et actualise toujours à nouveau cette médiation entre la base et la superstructure. C'est pour ça que ce n'est pas une question indifférente que cette question de la base et de la superstructure, et que vraiment le camarade Staline nous apporte, et d'un apport très précieux pour le monde. Or, dans le cadre de ce qu'on appelle l'égalité socialiste, c'est un concept C'est un concept structurant du droit de RDA, Gesetz sozialistische Gesetzlichkeit. Cette médiation entre la base et la superstructure doit en permanence s'actualiser pour précisément garantir l'harmonie des intérêts qui seule garantit, pour parler comme Hegel, dans un sens un peu différent, au fond, c'est l'harmonie des intérêts qui va garantir ici la satisfaction de la subjectivité. Mais bon, sans plus de subjectivité à la fin. Il y a donc dans le principe même de cette construction une logique d'inversion qui transforme le droit en devoir. Et ce qu'exprime, on ne peut mieux, le grand philosophe du droit est-allemand, que j'ai déjà cité, Walter Ulbricht. La participation, alors, il n'était pas du tout juriste, hein, c'était pas, c'est pas comme notre ami Salazar. Notre ami. La participation à l'organisation consciente de l'ensemble de la vie économique, culturelle et avant toute chose politico-étatique de notre République est donc, la participation à l'organisation consciente de l'ensemble de la vie économique, culturelle et avant toute chose politico-étatique de notre République est donc le droit décisif fondamental du citoyen de notre République. Ils aimaient bien répéter. La répétition, ça fait partie du style est-allemand. Et Hermann Kleiner, l'autre théoricien juriste que j'ai déjà cité, qui a été mis au pas en 1958, écrira dans ses études sur les droits fondamentaux en 1964, « L'unité, la concordance entre les exigences sociales et les intérêts matériels de tous les citoyens, après la victoire des rapports socialistes de production, est réalisée. Pour cela, il n'est nul besoin de droits fondamentaux. En revanche, ça j'ai pas besoin de droits fondamentaux bourgeois. » En revanche, afin de faire prendre conscience de cette concordance en chacun, il est nécessaire de faire participer chacun à la direction de l'économie, de la culture, de l'État, et d'intéresser chacun, matériellement et moralement, aux plus hautes performances, Leistungen, avant tout dans le processus global de reproduction. Et pour ce faire, les droits fondamentaux, entre autres, sont indispensables. Et ça, c'est les vrais droits fondamentaux sociaux. Dès lors, les droits fondamentaux ne mettent pas du tout en scène le drame bourgeois de l'individu face et parfois contre l'État. Hein ? Ça. Ils ne déterminent pas une sphère staatsfrei, pour reprendre la formule de Georg Jelinek, c'est-à-dire libre à l'égard de l'État. Ils ne disent pas une liberté contre l'État ou une liberté face à l'État. Ils disent une liberté pour l'État. Pour l'État. Pas dans, pour l'État. Et puisque la séparation entre État et société est surmontée grâce aux partis à ces organisations sociales, ces droits fondamentaux ne sont donc pas davantage une garantie de la sphère privée contre la sphère sociale, pas seulement étatique, sociale. La socialisation des moyens de production marche logiquement de concert avec la socialisation des droits. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Buchenförde, les devoirs fondamentaux ne sont pas à côté des droits fondamentaux socialistes, mais pleinement au-dedans. Ils en déterminent le sens véritable. La liberté d'expression, par exemple, formellement garantie, n'est pas flanquée d'un devoir d'expression, bien sûr, mais se transforme en une obligation de s'exprimer lors des grands débats participatifs, on a envie de dire les grands débats nationaux, régulièrement organisés. Mais dans la limite du paragraphe de l'article 6 de la Constitution de 1949, dit boycott paragraphe, le dénigrement visant au boycott des institutions démocratiques et de leurs organisations sociales, est un crime au sens du droit pénal, du code pénal. Juste une dernière remarque sur cette question des droits fondamentaux. Puisqu'on retrouve en RDA le catalogue des droits bourgeois pour l'essentiel, même si ceux-ci subissent l'inversion interprétative que j'ai essayé de dire, certains de ces droits sont cependant difficiles à réinterpréter comme des droits de participation. Je prends juste un exemple, le secret des correspondances et des communications. Le secret, par définition, s'oppose à la participation. Donc, voilà, donc là c'est juste une étiquette, une jolie étiquette dorée sur une bouteille vide, comme aurait dit Joseph Barthélémy en son temps, et tout le monde sait que ce droit a été massivement bafoué par le régime. Ce n'est donc il y a des droits fondamentaux qui sont des purs ornements rhétoriques. Élection, quelques mots. Il existait, je le rappelle, un pluralisme partisan de façade. Il y avait 5 partis, le SED, dont j'ai parlé, et puis 4 autres partis, je ne vous détaille pas, mais qui faisaient partie tous du bloc des du bloc démocratique des partis et organisations de masse. Le bloc. On les appelait les blocs partis. Et ce bloc des organisations, ce bloc démocratique était la pièce essentielle de ce qu'on appelait à l'époque
le Front National. Toute ressemblance avec les personnages serait pure coïncidence. Aux élections à la Chambre du peuple, comme aux élections locales, dans les communes, les districts, il n'y avait plus de lenders, bon, peu importe, n'était présenté au choix des électeurs qu'une seule liste, liste unique, sur lesquelles étaient réservées quelques places par le SED, au bloc part-time, pour faire joli. Nous autres, démocrates libéraux, bourgeois, etc., on peut bien se demander quel sens possède une élection non pluraliste. Hein? Donc, on dénigre. Alors, mais trop rapide. Voilà ce qu'on explique. La liberté étant conçue comme une liberté objective de participation, non pas à l'État, mais pour l'État et la société socialiste, le droit de suffrage ne pouvait évidemment s'interpréter différemment. Si le parti et ses organisations de masse déterminent les conditions objectives de cette liberté, un droit de suffrage contre le socialisme, un libre choix entre l'ordre socialiste et l'ordre bourgeois, serait sur le fondement même, dans la logique de ce concept, absurde. Une monographie consacrée au rôle du droit électoral en RDA 1958 nous dit « La démocratie socialiste est au service de la consolidation de l'ordre de la démocratie populaire et de l'édification du socialisme. L'objectif de nos élections ne peut être un autre. Les formes dans lesquelles s'exercent nos élections sont déterminées par leur but, faire un pas supplémentaire vers cet objectif. » Donc, vous ne pouvez pas mettre en concurrence libre. Bon. Il est clair que le but étant d'éliminer les contradictions sociales, le processus électoral ne saurait se fonder sur une contradiction pluraliste. Cela ne veut pas dire cependant que l'électeur ou le citoyen est-allemand n'avait pas de choix ou pas d'intervention. Mais ça se déroule avant les élections. Ça se déroule dans les multiples réunions, parce que c'est une démocratie hyper participative. Il faut le dire, Ségolène y aurait été parfaitement heureuse. Parce qu'avant, on va se... Hein, elle n'est pas la seule, hein, on aurait beaucoup d'amis.
Les références à l'actualité ne sont pas permis.
D'accord, je ne dis rien. Non, je dis rien. Mais c'est la procédure de sélection. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses réunions organisées dans le cadre de ce Front National. Hein, Front National et démocratie participative, ça rime pratiquement. Hein. Et là, on peut dénoncer les faiblesses de tels candidats pressentis. Et ce n'était pas une procédure purement formelle. C'est-à-dire qu'on a des témoignages et on peut considérer que ça devait fonctionner. On a écarté des candidats. Hein. Voilà. Et ça se passe en amont de l'élection. Donc, hein, parce que l'élection a un sens. Le paragraphe 1, alinéa 2 de la loi de 63 sur l'élection nous dit « Par l'élection, la population envoie au sein des assemblées du peuple, locales, nationales, à titre de député, ses meilleurs représentants fair traiter, parce que ce n'est pas des représentants au sens de la théorie de la représentation, qui se distinguent par leurs actes remarquables, leur initiative et leur attachement au peuple des travailleurs. C'est ça le but. Et les électeurs remettaient aussi aux candidats définitivement choisis les Wähleraufträge, c'est-à-dire les mandats impératifs, les doléances. Hein? Ça ressemble vraiment au grand débat national. Bon. De sorte que, et donc, le principe du mandat impératif. Et il y avait aussi, alors pas la révocation citoyenne, il ne faut pas exagérer, mais les citoyens pouvaient demander la révocation de certains élus. Bon, mais c'est l'Assemblée concernée qui décidait en dernier ressort sur l'exclusion ou la non-exclusion du député concerné ou du représentant du fair-traiter concerné. Dernière chose sur le vote, le jour du vote, c'est un jour de fête. Ah, c'est un jour férié, il y a plein de cérémonies, des fêtes populaires, des rassemblements, c'est la liesse, c'est la fête révolutionnaire dans laquelle se manifeste concrètement l'unité, l'harmonie de la collectivité, c'est le signal d'une nouvelle avancée et de la consolidation du socialisme. Donc ça a un effet, ça aussi pour objet et pour fonction, de ressouder la communauté, la collectivité populaire. C'est pourquoi le processus électoral pris dans son ensemble n'est pas une absurdité dans cette logique. Ce n'est pas un non-sens si on le considère d'après la perspective interne au système. La notion d'élection prend un tout autre sens que celui qu'il a dans les démocraties libérales, mais pourquoi s'en étonner ? Puisque le vote n'ouvre pas un espace critique à l'égard des gouvernants, mais est destiné à conforter ceux-ci dans leur action pour le socialisme réel. Mais est-ce que ce n'est pas là l'idéal schmittien de la démocratie, hein, l'élection comme acclamation, hein, et festive, hein, sans que vienne se mêler à la désignation ce que Rousseau appelait le jeu malin des intérêts cachés, ces intérêts privés qui polluent la politique et se cachent dans les isoloirs bourgeois, dit Schmitt. Hein. Oh, il y avait des isoloirs en RDA, il y en avait. Mais aller se cacher dans l'isoloir, c'était sans suspect, alors qu'il suffisait de replier le papier sans rien y rajouter pour voter. Donc l'isoloir était là comme un... ne servait pas à grand-chose. Alors, juste un tout petit mot au sujet, deux minutes, sur la justice. La notion de justice fait elle aussi, je parle de la justice des juridictions, l'objet d'une redéfinition conforme à la logique de l'État socialiste et de la société socialiste. L'article 1, le paragraphe 1, alinéa 2 de la loi d'organisation judiciaire de 59, nous explique que le dogme socialiste de l'unité du pouvoir d'État fait des tribunaux des organes de cette puissance unitaire de l'État. Pas de séparation des pouvoirs et donc pas d'indépendance des juridictions à l'égard de l'État ou même du parti. Mais c'est normal puisque le droit est, souvenez-vous, une catégorie entièrement subordonnée à celle du politique. Le risque, sinon, serait grand que le principe de l'égalité socialiste ne devienne lettre morte. Or, cette légalité socialiste, c'est le fondement même du droit marxiste-léniniste. Elle est le fondement objectif connu grâce à la science du marxisme-léninisme dans lequel doit se tenir la norme juridique afin de ne pas freiner mais de favoriser son inexorable progrès historique. Staline l'a dit. Bon, j'y reviens pas. La légalité socialiste se situe dans la base nouvelle. Elle n'est pas dans la superstructure, là. Elle doit se refléter dans la superstructure juridique, non seulement dans les lois, mais aussi dans leur application. L'indépendance des juges par rapport au parti et à l'État sur le mode d'une séparation des pouvoirs signifierait leur indépendance à l'égard de la légalité socialiste, hein, c'est-à-dire la base objective du droit qui est dans la superstructure. Et là aussi, il y a un lien entre la superstructure et la base. Dans la mesure où, comme on l'a dit, le parti, enfin, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dirai ailleurs, le parti est conçu comme un système politico-cognitif. Il a la connaissance de la légalité objective, c'est lui qui l'a définie. Au contraire, s'imposer donc comme un principe de la justice socialiste, le principe de parteilichkeit, c'est-à-dire de caractère partisan, si je traduis directement, de la justice. C'est le pendant subjectif dans le comportement et la conscience du juge du versant objectif de la légalité socialiste. Le juge, il y a la légalité socialiste objective, et il y a le juge qui doit être pénétré de ce principe de parteilichkeit, de caractère partisan. Car ce qui est important dans la question de la réalisation, de la mise en œuvre, de l'application du droit, c'est le rôle de la conscience socialiste du droit. C'en est fini du juge neutre, impartial et donc bourgeois. Mais je le dis, je trouve les mêmes phrases chez les nazis. C'en est fini du juge neutre. L'heure est au juge politique. Dans le cadre du procès, les exigences de la conscience socialiste du droit ne s'impose pas au juge seulement. C'est là-dessus que je veux conclure. Elle s'impose aussi à l'avocat, au défenseur. Le droit à la défense est reconnu par les textes. Mais encore une fois, il est réinterprété selon une logique qui diffère légèrement de celle de l'État libéral bourgeois. Voilà ce qu'on dit. La condition décisive pour la juste formation de la conviction intime du défenseur, de l'avocat, tient dans la conscience socialiste du droit. Ce qui devrait signifier que la conscience socialiste du droit, pour comprendre plus clairement le statut et la mission du défenseur, voici ce que l'on dit. La défense dans les affaires pénales est encore beaucoup trop considérée comme une affaire privée qui ne concernerait que l'accusé lui-même. Mon Dieu, mon Dieu. Et il faut que cela rentre dans la sphère de la catégorie sociale. Et le rôle de l'avocat sera donc d'être, et là je cite, peu importe l'auteur, de toute façon ils se ressemblent tous, l'avocat doit être le conseil, l'éducateur, parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais la mission éducative du droit, c'est une mission fondamentale, l'éducateur, et l'aide auprès de la population travailleuse permettant de surmonter les contradictions nécessairement entraînées par le développement de la société, ou le développement du socialisme, ou occasionnées par une défaillance subjective. Oui, l'avocat participe à cette unification, à cette harmonisation des intérêts. C'est son rôle majeur. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Parce que pour résumer, je retrouve le même genre d'inversion de signification, mais qui ont leur logique. C'est ça qu'il est important de démontrer. C'est que c'est ça. Ça a une cohérence interne, tout ce discours. Ce n'est pas une absurdité. Et la petite, comme je ne ferai pas la conclusion, mais ça sera bon, camarade et ami Olivier Beau, je voudrais dire que depuis ce matin, j'ai parlé au début, une minute, des différences entre national-socialisme et marxisme, léninisme ou RDA. Je ne vous ai peut-être pas suffisamment montré, mais depuis ce matin, je vois beaucoup de diversité. Aucun système ne ressemble vraiment à l'autre. Et c'est un point très important, c'est un enseignement fondamental pour moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un point commun et qui, au fond, a quelque chose à voir avec cette histoire de la base et de la superstructure, même s'il faut inverser la relation? C'est-à-dire, est-ce que ça ne pose pas le problème, tous ces autoritarismes, de la base morale du politique? On a le réglement moral, ça m'a beaucoup intéressé. Et là, on voit qu'au fond, c'est la conscience socialiste, et le rapport du droit et de la morale, je ne l'ai pas évoqué, mais ça sera dans la publication. C'est-à-dire la base morale du politique, ce qui me ramènerait au problème, au fond, fondamental du politique moderne, et ce qui expliquerait pourquoi ces États, qu'ils soient, qu'on les dise autoritaires ou totalitaires, et peut-être peu importe, peut-être, ils ont quelque chose en commun et ils ont un problème avec la sécularisation profondément, je crois. C'est la grande peur face à l'État libéral sécularisé et à sa logique propre, c'est-à-dire comment la société des individus, lorsqu'ils sont désarimés d'un cadre commun religieux ou d'un succès d'année du religieux, d'un cadre moral commun, peut-elle encore produire l'unité nécessaire à l'État libéral sécularisé? Parce qu'il me semble qu'il y a un refus de ce que nous appelons l'État moderne, sécularisé, libéral et démocratique, qui, citation, vit sur la base de présupposés, de conditions qu'il n'est pas lui-même capable de garantir s'il veut rester moderne, sécularisé, libéral et démocratique. D'où cette ouverture comme un arrière-plan malheureux, de la conscience malheureuse de la modernité, cette ouverture sur des perspectives autoritaires ou totalitaires, on s'en fiche. Voilà. Derrière, il y a le problème de l'État sécularisé, me semble-t-il. Merci.